Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Aujourd'hui, nous avons donc dit que le péché, c'était, en somme, couper la relation avec Dieu, ne pas aller vers lui, pour devenir semblable à lui. Et aujourd'hui, la parabole du Fils prodigue nous montre toute la difficulté, justement, de rester en relation avec Dieu. Aussi bien le fils cadet que le fils aîné nous montrent chacun une facette de la coupure avec Dieu. Si le fils cadet, c'est la recherche de la liberté pour soi. Il ne veut plus de contraintes. Il coupe les liens avec son père, qui, vous l'avez compris, symbolise Dieu. Il va s'égarer en cherchant la jouissance sans Dieu, grâce aux biens matériels et à la prodigalité. Il veut l'argent, son héritage. Il veut tout posséder tout de suite. Si vous vous souvenez des trois péchés fondamentaux, je vais dire, ici, c'est l'avoir. Il vit en homme prodigue pour se payer la reconnaissance des autres. C'est ainsi le pouvoir sur les autres par l'argent. C'est le pouvoir. Et il a faim de vivre, il veut jouir de la vie et être son propre chef. C'est la jouissance sans Dieu. Le fils cadet, l'illustration finalement de bien des hommes aujourd'hui, ni meilleur ni pire que d'autres. Il pense lui aussi que pour vivre, il faut posséder, il faut être dans le pouvoir et profiter de la vie. Ce que le fils cadet fait, c'est l'image que nous renvoie le monde moderne comme étant la vie, en essayant de rassurer nos trois angoisses, la peur de la mort, la peur de la solitude et l'absurdité de la vie. Si le fils cadet exprime clairement sa volonté de vivre sa vie comme il l'entend, le fils aîné, lui, subit sa vie. Il fait les choses par devoir. Il veut gagner l'amour de son père par ses mérites. Il fait tout de manière conformiste. Il semble donner le change en étant conforme à l'image d'un fils obéissant. Mais au fond de lui, il est prisonnier de cette image. Il est aigri, il est jaloux. La colère et la rancune bouillonnent au fond de lui. Voici des années que je te sers, et jamais je n'ai désobéi à ton commandement. Et à moi, tu n'as jamais donné même un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà, qui a mangé ton bien avec des filles, est revenu, tu as tué le veau gras pour lui. Son masque de fils parfait est lourd à porter, parce qu'il le porte par devoir. Mais en se retranchant dans des règles extérieures subies, il s'élève aussi en juge pour ceux qui ne respectent pas les règles. Il se sent investi d'une mission. Il se veut être la justice, être le gardien de ce qu'il considère comme la bonne morale. Il est semblable aux pharisiens dont Jésus parle au début de ce chapitre, du chapitre de l'Évangile et de cette parabole, ces pharisiens qui murmuraient entre eux contre Jésus parce qu'il accueillait des gens que eux trouvaient de mauvaise vie et qui mangeaient avec eux. En somme, l'un comme l'autre, le fils cadet comme le fils aîné, a quitté et oublié son maître intérieur. L'un en se coupant de Dieu ouvertement et en voulant mener sa vie à sa guise, et l'autre en se trompant de cible et en se réfugiant dans des principes extérieurs qu'il subit par devoir. L'un et l'autre ont oublié la destinée divine de l'homme. Et cette destinée divine ne pourra s'accomplir que si nous adhérons librement à ce don de Dieu. Y renoncer par orgueil ou vanité, ou adhérer sous la contrainte du devoir, conduit au même résultat. Mais ce que le Christ veut nous montrer à travers cette parabole, c'est que quel que soit notre chemin d'égarement, Dieu est là pour l'homme, avec sa patience infinie, avec son amour, avec sa bonté, sa miséricorde, son pardon. Comme je vous le disais ce matin, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Peu importe comment nous nous sommes égarés, il n'attend qu'un geste, une attitude de notre part pour ouvrir les bras et nous accueillir. La vie spirituelle auquel Dieu nous invite, c'est une suite continuelle d'égarements qui vont permettre à Dieu d'agir si nous entrons dans une attitude de repentir. Sans notre repentir, Dieu ne peut pas agir. Il ne peut agir qu'envers ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui trouvent en lui leur espérance et leur guérison. Vous vous souvenez certainement de la peinture de Rembrandt sur la parabole du fils prodigue, où nous voyons un vieillard qui pose un regard rempli d'amour sur un être en haillons qui est agenouillé devant lui et appuyé sur son cœur. Et le vieillard pose ses deux mains dans le dos du personnage. Et ici, Rembrandt a une intuition remarquable pour mettre en image cette parabole. Car il y a une main d'homme, mais aussi une main de femme. Une main d'homme puissante, montrant toute la force de l'amour de Dieu. Et une main de femme plus fine, montrant toute la tendresse et la douceur de la miséricorde de Dieu. Lorsque le fils cadet prend la décision de se retourner et de revenir vers son père, celui-ci est là pour l'accueillir, pour le recevoir dans ses bras, sans reproche, sans jugement, juste dans l'amour. Après que le fils aîné ait exprimé sa colère, le père ne lui fait pas non plus de remontrance, mais il lui redit son amour envers lui. « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi et ce qui est à moi est à toi. » Il reste le fils aimé de son père. Ce fils aîné qui se croyait délaissé, moins aimé que son frère, a aussi besoin d'être rassuré sur son statut de fils. Il avait dit à son père « ton fils » en parlant de son frère et en se sentant exclu. Le père l'invite ainsi à l'abandonner le « tout m'est dû » pour le « tout m'est don ». Cette parabole est semblable un peu à celle des ouvriers de la 11e heure. La jalousie remplissait aussi le cœur des ouvriers du matin. Mais le Christ nous montre que sa justice n'est pas une justice de récompense pour nos mérites ou de punition pour nos égarements, mais une justice d'amour et de miséricorde. Il est important de répéter que Dieu ne nous viole pas. Son amour et sa miséricorde sont un don gratuit que nous pouvons hélas refuser. Dieu n'impose pas. Il donne sa grâce, son amour à tous, librement, et l'homme dispose. Alors à nous d'accueillir ces dons dans l'humilité. Et souvenons-nous pendant ce temps de carême des paroles de la première épître de saint Jean. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur.